Voilà, bonjour, je vous souhaite une bonne année, une année dans la lumière du Seigneur que nous avons à recevoir. Et nous avons encore 2 heures qui serviront un peu de conclusion sur 2 points qui sont encore importants et même essentiels pour nous chrétiens. C'est de voir comment nous pouvons, non pas instaurer, parce qu'il est déjà instauré, mais poursuivre le dialogue et dans quel sens le faire. Comme le dit la Constitution Nostra Aetate, notre connaissance du judaïsme fait partie de la réalité de notre Église. Nous ne pouvons pas non seulement l'ignorer, mais nous ne pouvons pas la laisser, la négliger. Et pendant 20 siècles, dans l'Église, on a mis en marge de l'histoire la réalité de la naissance de l'Église à partir du judaïsme. Il y a un petit livre qui a été édité par Parole et Silence, par le père Gianfranco Ravasi, mon collègue de la Grégorienne, et il intitule cela « Ne renie pas les créatures ». C'est un petit livre qui donne un certain nombre de textes de Benoît XVI et de Jean-Paul II à propos des Juifs, et à l'occasion de visites qu'ils ont faites à Auschwitz. Et voici comment il commence, après avoir parlé du pèlerinage de Benoît XVI à Auschwitz en 2006. « Dans les déserts du désespoir jaillissent les sources. » Tel est l'enseignement de la foi. Pendant que tu gis dans la poussière, nourris-toi de foi. Et ce texte, c'est le texte d'un chassid juif, qui s'appelle Mendel de Kotzk, un juif polonais. Les paroles du rabbi Mendel de Kotzk peuvent être le guide symbolique pour un itinéraire spirituel à l'intérieur des pages qui suivront. Comment avons-nous besoin du juif en face de nous, pas seulement du juif ou des juifs qui ont composé la Bible, cette écriture qui est aussi la nôtre parce qu'elle est devenue absolument universelle, mais comment avons-nous besoin absolument des juifs pour être véritablement chrétien? Et donc, cette relation juif-chrétien et ce vis-à-vis juif-chrétien est non seulement nécessaire, mais indispensable à notre être chrétien. C'est ce que saint Paul développe dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, qu'il faut bien sûr situer dans l'ensemble de l'Épître, mais l'ensemble de l'Épître parle de l'histoire du salut. Et cette histoire du salut, c'est notre histoire à tous. Mais elle passe par le particularisme de la judéité. Et nous ne pouvons pas négliger le fait que Jésus était juif et qu'il n'était pas chrétien. Les chrétiens, ce sont ceux qui suivent le Christ, juif aussi, bien entendu. Juif et universel. Alors, vous pouvez trouver l'essentiel, dit autrement bien sûr, l'essentiel de ce que nous allons voir aujourd'hui, dans le chapitre du syllabus, qui s'intitule « La synagogue et l'Église ». Je donne là d'abord quelques notes sur les origines de l'antisémitisme, L'antisémitisme n'est pas d'abord un fait chrétien. L'antisémitisme est né avant le christianisme, bien sûr, parce que les religions impériales, ou les religions des différents empires, disons comme cela, qui ont essayé d'assimiler Israël, ont imposé leur dieu païen la plupart du temps, et le juif était toujours celui qui résistait à l'immersion dans ces dieux païens. Parce que pour lui, l'essentiel, c'est de découvrir que Dieu était unique et qu'il était pour tous. Car cela, c'est évidemment la tradition juive. Puisque le rôle, la vocation, pouvons-nous dire, du juif, c'est le Kiddush Hashem, c'est-à-dire la sanctification du nom, c'est-à-dire l'expression dans sa vie concrète de l'unicité de Dieu. Mais l'antisémitisme a pris une saveur chrétienne à partir du moment de la constitution de l'Église à la fin du 1er siècle, car il y a eu, bien sûr, une opposition du judaïsme à une réalité qu'il attendait, sans l'attendre de la manière dont elle s'est réalisée dans l'histoire. Car Israël a une attente messianique. Il sait que notre vie est un pèlerinage vers une présence de Dieu, présence qu'il appelle la résurrection, face à l'immortalité de l'âme dont parlaient les philosophes grecs, parce que la résurrection, c'est la refonte de tout l'homme dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous donne naissance, c'est Dieu qui nous fait être nous-mêmes dans le judaïsme. Et cette manière de s'exprimer en termes de choix de Dieu, d'élection, le peuple élu, un peuple qui se dit élu par Dieu, mais ça provoque la jalousie, évidemment. Et provoquant la jalousie, donc c'est la naissance païenne de l'antisémitisme que les chrétiens ont reprise. Pas tout à fait au début, parce que pendant un certain temps, quelques dizaines d'années, peut-être une centaine d'années, les chrétiens ont été assimilés aux juifs dans l'Empire romain. Et ce qui valait pour les juifs, valait aussi pour les chrétiens qui étaient considérés comme une secte juive particulière. Et pendant 4 siècles, le christianisme, le judaïsme aussi, pendant 4 siècles, le judaïsme et le christianisme ont vécu une époque d'hésitation. La séparation n'a pas été vraiment violente. Elle l'a été dans certains endroits, bien sûr. Mais il y a eu un départage qui s'est fait progressivement dans les 4 premiers siècles. Et c'est un peu une philosophie, le juif appellera cela plutôt philosophie que théologie juive, parce que le juif dit, on ne sait rien sur la réalité de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. On ne perçoit Dieu qu'à travers la création et à travers la création particulière dans les hommes, dans l'humanité. Donc, le juif est très prudent pour parler de théologie. Il dit, non, c'est une perception de la réalité de Dieu dans l'histoire. Cette perception dans la particularité de l'histoire est essentielle. Ce n'est pas une idéologie simplement. Mais Pendant 4 siècles, il y a eu beaucoup de discernements qui se sont opérés et qui ont provoqué, évidemment, un conflit. Le conflit qui allait jusqu'à la persécution. Parce que nous croyons toujours que quand nous pensons quelque chose, que notre pensée est universelle. Mais non, elle est particulière. Mais elle doit s'affronter à d'autres pensées pour devenir effectivement universelle, c'est-à-dire compréhensive des autres. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, parce que progressivement, les païens que nous sommes, les pagano-chrétiens, autrement dit, les pagano-chrétiens se sont petit à petit emparés d'un certain pouvoir. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la révolution constantinienne, puisque la religion chrétienne est devenue religion d'État. C'est cette religion qui a petit à petit repris un pouvoir qui n'était nullement un pouvoir religieux, qui était un pouvoir politique qui se servait de la religion. Et le conflit s'est envenimé. Petit à petit, puisque la langue du Nouveau Testament était le grec, petit à petit, la Bible qui avait déjà été traduite en grec au IIe siècle avant Jésus-Christ est devenue universelle. La langue universelle étant alors le grec, beaucoup plus encore que le latin. Et c'est à partir de cette appropriation de la Bible par les universalistes qui étaient les Grecs, ou la mentalité grecque, que le conflit pour la vérité, s'est davantage mêlé à l'histoire de l'Église et a gangrené pas mal de cette histoire. Je vous cite un livre que j'espère que vous avez lu ou que vous lirez, il est indispensable, me semble-t-il, hein, surtout ceux qui seront prêtres, de Jean-Marie Lustiger, La promesse. Sous-titre, Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Quelle est la promesse de Dieu qui chemine à travers l'histoire humaine et dans la particularité d'Israël. Et je vous lis simplement un passage de la page 81 pour bien situer le problème. Le péché auquel ont succombé les pagano-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens venant du paganisme, tels que nous sommes, que ce soit les hommes d'église ou les princes ou les peuples, fut de s'emparer du Christ en le défigurant, puis de faire leur Dieu de cette défiguration. Ils ont ainsi conduit Israël persécuté à apparaître malgré lui comme une figure du Christ humilié. Leur méconnaissance d'Israël est le test de leur méconnaissance du Christ qu'ils prétendent servir. Et ça, c'est l'accaparement du pouvoir. Et malheureusement, jusqu'à Vatican II, c'est ce qui a pénétré, heureusement, pas toute l'Église, mais dans beaucoup de couches de l'Église occidentale, de façon tout à fait particulière. Judaïsme et ecclésiologie chrétienne. C'est ce thème qui est médité justement par le cardinal Lustiger. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que dans la première partie, qui est au fond le texte d'une retraite qu'il a donnée à des moniales, qui ont fondé aussi, enfin, ont participé à la fondation de la renaissance de la communauté d'Abou Ghosh, hein, les Emmaüs anciens. Toute cette première partie, c'est une méditation sur l'évangile de saint Matthieu. Et quand on médite ou quand on étudie saint Matthieu, il est très utile de consulter ce texte. Et la seconde partie, ce sont des réflexions, des conférences que Mgr Lustiger a faites en Israël, ou bien à Paris, mais devant des auditoires juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il dit « nous » dans la première partie, il s'assimile vraiment aux chrétiens, et quand il dit « nous » dans la deuxième partie, il s'identifie vraiment avec le peuple d'Israël. Il peut dire « nous » d'un côté comme de l'autre. Nous ne pouvons pas le faire comme lui, et nous n'avons pas à le faire, mais nous avons à découvrir pourquoi il le fait ainsi, alors que parce qu'il le fait ainsi, il est critiqué par les uns et par les autres. Vous voyez, dans l'histoire de la tradition chrétienne, il y a eu différentes manières de traiter ce conflit. Qui a la vérité? Le juif tend vers le Messie, mais dans un certain sens, il n'en a pas encore besoin, parce qu'il sait bien que l'accomplissement d'Israël, le Messie, c'est l'accomplissement de l'humanité en Dieu. Et il sait bien que l'histoire d'Israël n'aboutira pas à cette transformation. Il faut que Israël, comme tous les peuples, le reçoive gratuitement de Dieu, et que c'est une question de prière et pas une question de force de volonté. Et l'accomplissement qui est donné en Jésus et dont parle évidemment très souvent saint Matthieu, le plus juif des quatre évangiles, l'accomplissement par Jésus est une surabondance. On n'en a pas besoin. Il nous vient par grâce. Par grâce absolument pure. Et c'est pourquoi la situation n'est pas tout à fait égale. Le juif, pour être juif, n'a pas besoin du chrétien. Il y tend, en quelque sorte. Mais il reste juif. Il reste particulier. Mais le chrétien a un besoin absolu du judaïsme. Parce que c'est de là qu'il vient. Et s'il coupe la racine, l'arbre meurt. Et ça, c'est important. C'est important de le découvrir. Alors, on a essayé de faire, disons, une compréhension, un mode de compréhension du judaïsme par rapport à l'Église, à travers toute l'histoire de l'Église, à travers des persécutions, à travers des persécutions allant jusqu'à la mort, hein, très souvent, d'un côté comme de l'autre. La première théorie qu'on a mise en évidence, c'est celle de la substitution. L'accomplissement arrivé, on oublie tout le reste. Et on se centre bien sûr sur la présence de Jésus dans l'histoire humaine et dans notre existence. Et donc, le judaïsme, c'est fini. Et ça, c'est ce que disait justement Mgr Lustiger, c'est l'accaparement par des païens d'une réalité qu'il disait dépassée. Elle n'est pas dépassée. Notre passé n'est pas dépassé. Notre passé continue de donner vie, de nourrir notre présent. Et donc, cette théorie, cette thèse, oui, cette théorie, disons plutôt théorie, de la substitution, c'est celle qui s'est peu à peu implantée à travers la tradition de l'Église, mais à partir du IVe siècle surtout. Donc, Israël a cédé le pas au nouvel Israël. Ce terme n'intervient jamais dans le Nouveau Testament. Il a été utilisé quelquefois de façon très particulière dans Vatican II. Mais on ne parle pas de nouvel Israël. On peut parler d'Israël accompli, d'Israël ouvert, ou comme le dit saint Paul plusieurs fois, ce mystère caché pendant les siècles s'est enfin ouvert à l'universalité, c'est-à-dire ce que vivaient les Juifs s'est ouvert à l'humanité entière, c'est-à-dire que cette promesse d'Israël pour les nations s'accomplit, commence à s'accomplir. Mais n'oublions pas que nous sommes encore, pour la plupart du temps, de l'Ancien Testament, parce que nous ne sommes pas encore devenus Jésus. Donc, cette théorie de la substitution a été sous-jacente, et c'est le premier renseignement que j'ai eu moi-même à propos d'Israël. Les Juifs, c'est fini. Les Juifs sont devenus un objet de musée. Donc, substitution. Cette théorie de la substitution, vous pouvez voir les derniers documents que j'ai mis dans le syllabus, ont été supprimés, disons comme cela, expliqués aussi par Vatican II et tous les textes qui ont surgi un peu après Vatican II pour expliciter ce qu'il y avait dans Nostra Aetate. Puis, ça c'était la thèse d'Augustin, par exemple, je vous les cite, ces différentes thèses, vous les avez à partir de... Après avoir parlé du Nouveau Testament, vous avez Théorie de la substitution, la page 86, qui est un mode de rejet. Et de fait, on a le christianisme a rejeté constamment le judaïsme, en faisant d'ailleurs des ghettos. Augustin a parlé, et c'est une thèse, de l'exemplarité. Ce n'est pas faux du tout. La substitution n'est pas tout à fait juste parce que l'accomplissement n'est pas la substitution de ce qui était promesse. Non, ce n'est pas une substitution. Et là, il y a quelque chose qui est tout à fait erroné. Mais l'exemplarité. Mais on peut parler de l'exemplarité au sens augustinien du terme, mais on l'a souvent mal compris. Israël est devenu rejeté, mais c'était la preuve, le signe de son incrédulité. Il n'a pas cru en son Messie qui était le Christ. Et donc il est puni en quelque sorte, comme si Dieu punissait quelqu'un. Toujours nous-mêmes qui nous punissons. Et donc il est puni et il devient errant. Et c'est bien fait pour lui. Ça, c'est la mauvaise façon de comprendre l'exemplarité. La vraie façon, celle d'Augustin, c'est de dire, mais réfléchissons sur le destin d'Israël. Pourquoi Israël n'a-t-il pas compris Jésus? Et pourquoi, justement, cette incompréhension lui fait claudiquer aussi à côté du chrétien qui claudique d'une autre manière. Claudique d'une autre manière parce qu'il s'arroge le privilège qui lui a été accordé. Il devient justement le pharisien que vous trouvez dans l'Évangile, et qui est la plupart du temps une réalité qui part d'une histoire d'incompréhension, mais qui devient le pharisien chrétien dans les Évangiles. Et c'est justement ce que souligne constamment le cardinal Lustiger. Donc l'exemplarité a quelque chose de vrai, nous pouvons méditer ce qui se passe. Mais attention à ne pas faire des amalgames. Les juifs ne sont pas les mauvais par rapport aux chrétiens qui sont les bons. Les juifs ne sont pas les impies par rapport aux chrétiens qui sont les pieux, les chassidim. Ça, c'est prendre notre situation de nouveau comme un pouvoir. Et vous pouvez suivre, il y a encore un livre qui vient de paraître récemment, Juif et chrétien, qui raconte de nouveau toute cette histoire. Je vous signalerai dans la prochaine fois, je vous donnerai une bibliographie plus récente encore d'un certain nombre de livres importants qui seraient à lire à ce sujet. Donc, théorie de la substitution, thèse de l'exemplarité. C'est vrai, Israël nous donne un exemple, mais pas l'exemple de la punition de Dieu. Sinon, c'est l'exemple de notre propre punition, du fait que nous prenons le pouvoir. Alors, cette réflexion a été un peu plus loin et on est arrivé à ce que j'appelle le schéma de la supériorité. Ce schéma de la supériorité. Nous sommes des êtres supérieurs parce que nous croyons quoi ? Nous croyons que Jésus est venu comme Messie, qu'il est le Fils de Dieu. En quoi y a-t-il une supériorité ? La foi nous est donnée comme un cadeau, pas pour l'utiliser comme une arme de combat. On se place sur le plan de l'histoire comparée des religions. Ah ! Vous voyez, dans le domaine de l'histoire des religions, il y a des religions très différentes dans le monde qui ont des perspectives culturelles, donc religieuses, différentes. Mais au fond, la recherche est commune. La recherche, c'est le sens de notre humanité, le sens de notre existence. Donc elle est commune. Mais si on veut un critère parfaitement païen, bien entendu, si on veut un critère parmi les religions, on peut dire ceci, la religion qui assume et qui transfigure, qui donne un sens à la majorité des réalités humaines, plus elle le fait, plus elle approche de la vérité, de la vérité. Mais la vérité est présente évidemment partout. Mais il n'y a pas une vérité absolue, sinon justement celle que Dieu est. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la découvrir complètement. Et voyez la supériorité d'une religion. Et c'est vrai, on peut parler d'une certaine supériorité, je préférerais parler de plénitude. Mais toute plénitude se donne à comprendre et à percevoir par des personnes qui sont toujours limitées. Et donc ce n'est pas la plénitude telle que nous la voyons, mais telle qu'elle existe et nous en prenons ce que nous pouvons, avec nos cultures. Et donc nous limitons nécessairement cette présence divine. Donc on se place sur le plan d'histoire comparée des religions, et on évalue le christianisme comme supérieur au judaïsme en raison de l'élévation de l'enseignement de Jésus par rapport à celui des rabbins, qui la plupart du temps étaient ignorés, et surtout parce que la personne de Jésus, fils de l'homme et fils de Dieu, est insurpassable. Ça, c'est juste. La personnalité de Jésus est insurpassable, mais nous ne sommes pas encore arrivés à Jésus. Le jour où nous serons cette présence de Jésus vraiment dans le monde, alors nous pourrons dire qu'il y a une certaine supériorité. Dans les discussions avec les rabbins ou les sages juifs, c'est l'argument généralement mis en évidence, dans le but parfois avoué de rabaisser la foi juive, d'en déterminer une fois pour toutes l'infériorité. Et nous découvrons encore quelque chose de cela dans les notes que je vous ai données, que vous pouvez prendre, et qui est la conclusion de ce livre, hein, de Jean-Marie Élie Sedbon, qui est un juif, il le reste bien sûr, hein, un juif, mais un juif orthodoxe, un rabbin, et qui est devenu chrétien. Il est devenu chrétien parce que tout petit encore, il a été vraiment frappé par le crucifix. Et il allait souvent à la messe le dimanche, et il y communiait, en étant parfaitement juif, ne sachant pas très bien ce qu'il faisait, mais fasciné par la croix. La croix qui était honnie par ses compagnons juifs, bien entendu, donc il le faisait toujours de façon cryptique, en se cachant, mais cette croix devenait pour lui un chemin de salut. Et alors, il montre précisément dans sa conclusion, c'est celle que je vous ai photocopiée, il montre ce qui a changé. Hein, le passage de la Torah à la croix. Et il le fait de façon très juste. La foi et la loi, ce sont les différents petits chapitres qu'il utilise. La foi et la croix. Et la loi, pardon. La foi, c'est un chemin volontariste. C'est un chemin de perfection. Les commandements sont donnés par Dieu et par respect pour cette présence de Dieu, dans sa parole, dans ses commandements, on essaie par toutes ses forces humaines d'appliquer cette loi et de la vivre. Et c'est juste. Mais il montre que la foi, c'est la perception d'une grâce qui nous donne de faire ce qu'elle nous demande. Et c'est ce que saint Paul essaie évidemment de montrer, et c'est pour ça qu'il s'oppose parfois, hein, de manière extérieure à la loi, en disant que la foi a remplacé la loi. La foi n'a pas remplacé la loi. Mais, voyez, la loi, l'observance de la loi, nous donne en quelque sorte une certaine qualification. Nous observons la loi, donc nous sommes justes. Ça, c'est le danger, et c'est le danger pharisien. C'est ce que le juif lui-même appelle l'idolâtrie de la loi. Ce n'est pas la loi qui doit être observée. Ce qui doit être observé, c'est l'union à Dieu. Et la loi est un moyen, un pédagogue, comme le dira saint Paul. Et alors, justement, il passe de loi loi de Moïse hein, et foi chrétienne, il passe à la perfection ou la grâce. Mais ceci est pour nous chrétiens une bonne réflexion, parce que la plupart du temps, nous mettons la grâce dans la perfection. Or, la grâce est quelque chose d'absolument gratuit. Ce n'est pas la récompense de nos efforts. Le mérite, qu'est-ce que c'est que le mérite? On ne mérite pas la grâce, on la reçoit et elle nous transforme. Alors il passe à un autre, vous pouvez lire, pour Dieu ou en Dieu? En Christo, dira saint Paul. En Dieu, en Christ. Est-ce que c'est pour lui que nous faisons des choses? Ou que nous les faisons parce qu'il nous les donne à faire? Parce qu'il nous a donné son esprit. Puis il passe le grand pardon, le Yom Kippour, ou le pardon quotidien. Une vie dans la miséricorde du Seigneur. Bien sûr que je suis pécheur. Mais un pécheur qui constamment reçoit la grâce de la purification. Et il montre justement à travers tous ces passages que la grâce traverse toutes ces réalités juives et qu'il en a découvert le bénéfice. Mais c'est par grâce. D'où les persécutions. Mais attention, les persécutions. On n'est pas persécuté parce qu'on fait mal, on est persécuté parce qu'on fait bien. Et pas parce qu'on fait bien, parce que la grâce nous donne de faire bien. Alors il passe aussi de la communauté, c'est-à-dire la communauté, notre communauté chrétienne ou autre, au monde. Et le monde n'est pas à l'image de cette communauté, il éclate dans cette variété, dans cette pluralité extraordinaire. Parce que si Jésus est un homme, il est en même temps tout homme. Sinon, personne n'est sauvé de rien. Car le salut se passe à l'intérieur des consciences. Le salut n'est pas un chapeau qui est mis sur l'humanité. Non, c'est une gratuité qui se donne dans une liberté qui résiste. Et c'est notre vie chrétienne. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Prière codifiée ou prière spontanée? Le juif priera de façon codifiée, nous aussi. Mais pour le juif, la prière spontanée a une valeur purement subjective. Elle n'a pas la valeur de la communauté, le peuple. C'est à travers le peuple que Dieu sauve pour le juif. Et alors, il se pose la question, est-il plus facile d'être juif ou chrétien? Est-ce que c'est une question de facilité? Dieu de Moïse et Dieu de Jésus. Et il termine justement en reprenant le chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. Ceci est pour nous un examen de conscience. Est-ce que, en voyant comment nous agissons, quel est notre comportement, est-ce que nous voyons bien où se trouve la grâce? Et comment notre réalité chrétienne est d'une gratuité absolue? Nous ne méritons rien. Dieu mérite dans l'homme. Dieu traverse les réalités humaines. Schéma de la supériorité. Il peut avoir du bon du moment que nous n'en fassions pas un drapeau. Nous ne sommes pas supérieurs. en rien. Et notre religion nous donne l'humilité de croire que nous avons à recevoir la grâce de la miséricorde parce que nous sommes pécheurs. Et c'est ce qu'il montre bien. Cela, il l'a bien compris. Ça, c'est le schéma de la supériorité. Alors, on est passé aussi à une autre perception des choses. Et vous voyez, je change chaque fois le mot, schéma de la supériorité. Je dis, c'est un schéma. Au thème de l'évolution. Ah. Dans le prolongement de l'argument de supériorité, et souvent aussi à partir de l'histoire comparée des religions, on souligne que le judaïsme constitue un stade préparatoire de la religion chrétienne plus évoluée. Et c'est comme ça que nous voyons les choses. L'Ancien Testament ne serait qu'une préparation au Nouveau, donc on le néglige, hein, on laisse tomber. Et le judaïsme se serait cantonné dans un stade embryonnaire d'évolution. Dans ce sens, on montre que l'Ancien Testament prône encore la violence par rapport à la douceur et à la miséricorde du Nouveau, que les psaumes sont remplis de cris de vengeance, que le culte juif est formaliste, légaliste, charnel, ostentatoire, hein, comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, on s'arroge une puissance. Et cela en se basant sur des textes vétérotestamentaires comparés à l'Évangile. Ou, ne reprenant des affirmations pauliniennes insuffisamment comprises dans leur véritable portée. Ce thème se rencontre fréquemment chez un certain nombre de pères de l'Église. Notons que le même thème est utilisé par la société moderne à l'encontre du christianisme, qui est bien sûr plus évolué que les chrétiens, c'est sûr, qui aurait arrêté son évolution humaine sans parvenir à un véritable épanouissement dans la liberté et l'autonomie. Hein, c'est comme ça qu'on est vu. Cette mise en question devrait semblablement nous atteindre et nous faire réfléchir sur le bien fondé de notre foi en Jésus et nous situer plutôt du côté d'Israël. Alors, nous avons encore des manières de voir, et que vous trouvez encore dans des sermons contemporains. Vous avez par exemple le thème de l'argent. Quand on parle de Judas dans la Bible, hein, le Judas qui aimait l'argent, on se pose des questions. Et alors, on vous fait un petit tableau de nouveau. Autre manière de discrimination par rapport aux Juifs, qui se place généralement sur le plan social, mais s'autorise de l'Évangile, et notamment de la première béatitude interprétée tendancieusement, hein, le pauvre, pour affermir sa position. Les riches sont les mauvais, les pauvres sont les bons. Nous retrouvons aussi le thème contrasté des méchants et des justes, non décantés et faussement interprétés à partir du thème de la bénédiction que constitue la richesse dans l'Ancien Testament, et que Jésus aurait renversé en maudissant le riche au profit des pauvres, béatifiés par lui. C'est encore une manière très extérieure et très païenne de voir les choses. Mais cette manière de voir esquive la fin des béatitudes, qui touche aussi les persécutés. Et elle ne comprend pas que les deux pôles, méchant, bon, pauvre, riche, existent en tout homme, et signale une mise en liberté. Et là, nous avons souvent une très mauvaise compréhension des psaumes, notamment. Et nous acceptons une sorte de dualité. Alors que dans les psaumes, cette dualité est en tout homme, elle est en tension. Comme des bénédictions-malédictions, ou l'édit de sagesse, souvent utilisé dans l'écriture johannique, dit parfois dualiste. Cette dichotomie n'est pas juste et n'est pas dans l'Ancien Testament. Mais voyez, nous avons accaparé l'Ancien Testament dans une mentalité païenne. Et nous avons oublié l'expérience juive qui s'était faite dans tous ces textes d'Ancien Testament. D'où nous avons l'obligation comme chrétiens de lire l'interprétation juive pour comprendre quelque chose qui est vraiment chrétien. Et cela, nous le négligeons très souvent. Et nous, bien sûr, nous avons raison d'interpréter les choses dans notre manière et dans notre culture, mais nous avons tort d'ignorer la manière dont le juif, beaucoup plus profondément, plus intimement que nous ne l'avons fait, intériorisait ces textes. Et beaucoup de difficultés ou d'incompréhensions que nous trouvons dans le Nouveau Testament notamment, s'amenuiserait ou bien disparaîtrait complètement si nous retrouvions la réalité juive. Je prends un pur exemple. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. En bons païens que nous sommes, beaucoup, ça fait des centaines de milliers, et peu, ça fait, on les compte sur les doigts. Mais ce n'est pas du tout ça que Jésus dit. Il ne compare pas un beaucoup numérique à un petit nombre. Je demandais à un juif une fois, comment tu traduis, tu traduirais cette question-là? Ben, c'est tout simple, il dit. Tous sont appelés. À toi de te laisser choisir. C'est tout à fait juste. Beaucoup, ça veut dire pour une mentalité. Mais maintenant, est-ce que toi, tu te laisses choisir? Est-ce que tu te laisses choisir? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être le choisi? Et pour montrer à tous les autres qu'ils sont choisis eux aussi? Oui. Et un certain nombre de choses comme ça, vous les trouvez constamment dans le Nouveau Testament, qui reprend bien sûr des mentalités, des perceptions de l'Ancien. Quand on, dans une phrase comme celle-ci, encore, lorsque tu étais jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Une fois que tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et te conduira où tu ne voulais pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Oh oui, ça a un sens, bien sûr. Mais c'est toute une anthropologie qui est présente là-dedans. Qu'est-ce que c'est que les mains? C'est le pouvoir. Pouvoir ou don? La ceinture, c'est quoi? Mais c'est le désir. Et le désir, notamment le désir sexuel. Convoitise ou promesse? Et tu allais marcher où tu voulais. Ça veut dire quoi? Ah, c'est le pouvoir. Avoir, désir, pouvoir. C'est toute une manière de vivre. Et alors, tu allais où tu voulais. Un autre te donnera, te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas. Ça, c'est cette présence divine qui est en nous et qui trouve évidemment en nous une résistance. Ça, c'est le vouloir. Vouloir, avoir, désir, pouvoir. C'est toute une perception humaine. Mais c'est dit dans une phrase qu'un juif comprendra tout de suite, mais que nous ne comprenons plus, parce que nous ne prenons que l'extérieur. Nous n'allons pas au fond de l'expérience. Alors, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est l'avoir. Et puis nous avons encore une image qui a accompagné les Juifs pendant des temps de persécution par les chrétiens, où Abel est comparé à Jésus, donc aux chrétiens, attention là, hein, pas trop vite, et où Caïn est comparé aux Juifs. Mais ce n'est pas juste non plus. Alors voyez comment toutes ces images ont travaillé l'histoire de la tradition chrétienne. Et il a fallu Vatican II pour découvrir que ce qui manquait à cette Église, c'était vraiment l'humanité. L'humanité profonde qu'est l'humilité. Et nous avons voulu avoir une Église triomphante. Mais l'Église triomphante, ce n'est pas nous qui avons à accumuler des triomphes. Nous avons à recevoir. Et je crois que nous vivons pour le moment un temps de désert qui est bénéfique pour cette Église. La tentation du païen, même devenu chrétien, comme la tentation du juif dans l'Ancien Testament, la grande tentation que vous retrouvez partout dans la Bible, c'est l'idolâtrie. On peut idolâtrer des réalités concrètes, mais on peut idolâtrer aussi des idées. Et on peut vivre d'idéalisme. Alors, ce que Jean-Marie Lustiger nous invite à faire, justement en relisant l'évangile de Saint Matthieu, c'est un examen de conscience. Non pas de savoir si nous sommes ou si nous ne sommes pas véritablement chrétiens, mais si vraiment cette présence de Jésus dans sa passion. Jean-Marie Lustiger parle beaucoup de cette passion du Christ dans l'Évangile. Si cette passion, nous l'acceptons comme la joie d'être chrétien. Cela nous ramène, et c'est pourquoi le juif nous est indispensable. Il nous aide à faire un vrai examen de conscience. Est-ce que nous sommes convertis à l'Évangile ou à l'idée que nous nous en faisons? Est-ce que nous devenons cette présence de Jésus dans ce monde? Et donc nous donner une vision plus juste de l'Église, non pas comme un pouvoir, non pas comme un triomphe, mais comme une réalité très simple, très profonde, cachée aussi. Nous ramène aussi à une fidélité à nos racines. Nous avons besoin du juif pour cela. Et je vous signale, j'avais écrit à la fin de l'année passée à propos d'un livre de Pierre Lénart. Pierre Lénart est un frère de Sion qui a vécu beaucoup en Israël et qui a été professeur de judaïsme, justement, des chrétiens. Et il a encore une mine, mais qui est insoupçonnée, parce qu'elle n'est pas encore décantée, et il faudrait le traduire. Il a écrit un livre qui a été édité, celui-là, sur l'unité de la Trinité. Et il montre comment cette Trinité est déjà présente dans le judaïsme, dans la façon dont il perçoit l'unité de Dieu. À l'écoute de la tradition d'Israël, donc c'était un livre récent qui avait paru, en Parole et silence, et à ce propos, j'ai attiré l'attention sur l'importance des études telles que les faisaient Pierre Lénard et beaucoup d'autres aussi, mais qui n'est pas superficielle, parce qu'il y a moyen de faire une étude du judaïsme qui demeure absolument superficielle. On y comprend quelque chose, on dit que c'est un midrash, mais on n'a pas perçu ce que c'était vraiment que le midrash. On le met dans une catégorie, voilà, et on croit avoir résolu les choses. Ou on donne une méthode et on s'asservit à la méthode et la méthode devient le Dieu, mais pas l'interprétation. Et donc c'est une réalité qui est indispensable dans la mesure où nous sommes chrétiens, c'est-à-dire redécouvrir le sens profond que le juif mettait dans ses textes. Parce que nous n'en avons que les textes, mais ces textes, pour le juif, doivent être constamment interprétés, et interprétés dans une communauté vivante. Heureusement, nous sommes en train de redécouvrir ce qu'est non pas l'évangélisation, au sens où nous devons défendre un enseignement, ou même l'enseigner, mais nous devons vivre ce que nous pouvons peut-être petit à petit commencer à enseigner. C'est-à-dire des communautés qui soient vivantes de ce que dit l'Évangile. Pour évangéliser, il faut devenir Évangile. Et l'Évangile, c'est la présence de Jésus. Et donc, tout ceci pour nous dire que nous sommes encore au printemps de notre Église, et que nous avons encore beaucoup à faire pour en découvrir la richesse, et que notre Église n'est pas du tout un privilège, c'est une grâce d'enfouissement. L'importance, et j'espère qu'en lisant ou en relisant ce que j'ai écrit dans le syllabus, vous pourrez en prendre davantage en conscience que je n'ai pu le faire à travers quelques paroles, une heure par semaine. C'est une estime. Une estime pour ce chemin de la présence de Dieu dans l'histoire d'Israël. Et pourquoi les deux tiers du Nouveau Testament sont reprises à l'ancien. Ce Nouveau Testament n'est vraiment compréhensible que quand on a découvert, mais relu et prié tout l'Ancien Testament, toutes les réalités humaines. Je dis toujours, et c'est pas une boutade seulement, que j'ai découvert toutes les perversions humaines dans la Bible. Elles y sont pratiquement toutes. Mais la Bible, ce n'est pas cela. La Bible nous dit comment la présence de Dieu traverse toutes ces perversions humaines. Elle les traverse dans le combat, dans la tension, dans la difficulté, dans l'impuissance souvent. Mais elle les traverse et elle les assume. Et cela, le juif, les prophètes, la Torah d'abord, les prophètes et la sagesse nous le disent constamment. Et nous mettent dans une mentalité capable d'écouter l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est la présence vivante de Jésus dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans notre vie de tous les jours. C'est cela que L'école que j'ai faite dans le judaïsme m'ont donné comme grâce un respect très grand pour ce chemin de la présence de Dieu, souvent cachée, pas du tout triomphante, mais qui est présence dans un certain nombre de juifs qui ont travaillé. Et je pense que quelqu'un comme Pierre Lénard a pu dans sa vie découvrir la richesse. Il nous en a donné déjà deux livres qu'il intitule « À l'écoute d'Israël en Église ». Ceci est le second. Je vous les cite aussi dans le passage de la Nouvelle Revue Théologique. Et il montre justement combien nous astreindre à un approfondissement même du Talmud, c'est-à-dire de l'étude telle que le font les Juifs, nous donne une perception beaucoup plus profonde et plus simple aussi de notre spiritualité chrétienne. J'aurai encore à parler, et nous ferons la semaine prochaine, d'un autre thème. C'est la distinction fondamentale qu'il y a entre le judaïsme et l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël nous dit quelque chose aussi sur la réalité de la terre. Est-ce que la terre est nécessaire? Est-ce qu'elle est indispensable? Pour le juif, oui. Pour le chrétien, d'une autre manière. Nous verrons ça la fois prochaine. Alors, s'il y en a qui doivent ou qui veulent passer un examen, vous choisissez un thème, un passage, et peut-être avec des questionnements, et on discutera pendant un quart d'heure, 20 minutes, sur ces questions. Pourquoi nous nous posons la question de telle ou telle manière? Ça peut être aussi un texte d'évangile, mais relu dans la mentalité, la perception juive. Merci.